était présenté par Nanit Talani. Au revoir.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge, dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington, pour recueillir des commentaires et réactions de nos auditeurs sur le sujet du jour, notamment les conflits et tensions intercommunautaires qui perdurent dans certaines régions d'Afrique, souvent pour des questions d'accès à la terre. Alors on sait que dans le nord du Cameroun, récemment, des affrontements entre éleveurs de bétail et pêcheurs ont fait plus de 40 morts, une centaine de blessés. Les Mosgoum et les Arabchois se disputent l'accès à l'eau. Dans l'ouest de l'Éthiopie, une série d'attaques et de représailles à caractère ethnique ont fait plus de 210 morts la semaine dernière dans la région de l'Oromia, selon la Commission éthiopienne des droits humains. Dans le centre du Nigeria, les affrontements récurrents entre éleveurs et agriculteurs ont fait des centaines de morts. Au Mali, les attaques djihadistes ont exacerbé les conflits entre Peul et Dogon. Voilà, ce sont quelques exemples. Alors, les questions du jour seront: quelles sont les principales causes des conflits intercommunautaires selon vous, et que faire pour vous, pour y remédier? Alors, je crois que nous avons déjà un auditeur en ligne qui est... C'est Diarra Kanyoumé, donc, qui est au Mali. Comment allez-vous?
Oui, je vais très bien, Nathalie. Bonsoir, toute la rédaction des VOA Afrique. Je suis toujours dans mon village natal à Tunité.
Alors, justement, vous allez nous dire un petit peu comment ça se passe dans votre région, si on vit bien en paix là-bas. On vous écoute.
Oui, effectivement, je pense que à chaque année, donc, cet phénomène ça roule pendant la saison des pluies. Donc, si les gens vraiment n'ont pas fait très attention, je pense que affaire des interconflits communautaires, vraiment, ça va devenir autre deuxième rébellion en Afrique, parce que entre les rivières et avec les agriculteurs, vraiment, ils ne s'entendent pas. Ça fait au moins longtemps que vraiment cette réaction, ça existe partout dans les pays africains. Surtout dans mon pays, au Mali, ici, il faut imaginer vraiment à chaque fois. Donc, l'agriculteur avec l'éleveur, vraiment, ils ne s'entendent pas par rapport. Parce que les pays, ils regardent leur bétail. Donc, valeur qu'ils trouvent dans leur bétail, ils regardent ça, ils ne considèrent pas. Au moins, ce qui fait l'agriculture au champ. Donc, vraiment, c'est pour cela qu'il y a affaire de conflit. Ça existe toujours. Donc, si l'État aussi, vraiment, il ne fait pas faire. Certaines choses, je pense que vraiment, c'est un problème, vraiment, ça ne peut pas finir en Afrique. Parce qu'il y a divers cas que j'ai constaté ici, surtout dans notre village ici. À chaque vendredi, quand le bétail est parti ici, pour aller dans le grand marché de Dral, donc vraiment, il fait gâtement dans les chats des agriculteurs. Donc, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de palabres qui sortent là-bas. Donc, jusqu'à les gendarmeries, ils viennent faire au moins les interventions. Donc, la paix aussi, vraiment, ils ne respectaient pas, au moins, sur les agriculteurs pour. Si leur bétail font gâtement, ils ne respectaient pas du pays. Donc, c'est pour cela que les palabres viennent. Donc, je pense que vraiment, si l'État n'est pas fait très attention, je pense que ça va devenir autre chose entre tous les pays avec les travailleurs. Et puis, d'entendre vraiment, il y a aussi. Il faut imaginer que les Dogons, aussi, les Dogons aussi, cet problème aussi, ça existe plusieurs beaucoup là-bas. Donc, je pense que vraiment l'État doit faire très, très effort pour que cette situation doit mettre fin, à mon avis.
Merci beaucoup, Kanyoumé Diarra. À partir du Mali, on vous dit à très bientôt. Nous avons Léon Akonda qui est en République démocratique du Congo et qui a écrit sur notre Facebook que parmi les causes qui sont à la base des conflits intercommunautaires en Afrique, selon lui, on note le tribalisme, le clanisme, les limites et possessions des terres ou des forêts. Léon, à vous la parole. On vous écoute. Bonsoir.
Bonsoir, madame et amis. Bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique. Oui, pour ma part, madame, ces conflits en Afrique se multiplient jour les jours. Parce que pourquoi? Il y a vraiment plusieurs causes qui sont par la base de ces conflits. Tel que moi, je l'ai cité sur votre page, il y a vraiment le tribalisme. En Afrique, il y a le peuple qui sont dans des régions les plus reculées, qui ne s'attendent pas. ne s'attendent pas parce que tel est de telle communauté, celui-ci est de l'autre communauté. Il y a aussi parmi les causes, tel village, telle localité se précipite une partie de la terre pour quitter l'autre. Donc, toujours des années, de tel genre de conflit qui avance. Alors, c'est comme si l'État en Afrique, dans plusieurs pays africains, néglige les régions les plus reculées, néglige les banlieues, même dans des capitales telles que nous sommes ici en République démocratique du Congo. Dans mon pays, c'est plus on croyait que la démocratie peut-être pourrait apaiser ce genre de paix et de choses, mais la démocratie et les politiciens font leur campagne dans des milieux reculés. Quand ils se présentent, je suis de votre père, je suis votre fils, je suis voté pour moi. C'est comme s'ils ont augmenté encore la haine, surtout avec certains politiciens qui n'ont pas les discours de paix. Ah donc, c'est-à-dire, il y a encore l'absence aussi de l'État. Il y a l'absence de l'État dans les milieux reculés. L'État doit renforcer son autorité. L'État doit prendre à charge de réconcilier. Doit d'abord ne pas seulement s'occuper de villes, la population de villes, là où il y a les caméras du monde entier et les micros, des radios, tout ça, mais l'État doit aller un peu plus loin, là où les gens marchent à pied, en vélo, là où les gens n'ont pas des avions et qu'on sort, là où il n'y a pas les télévisions pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Le service de renseignement, la police et surtout éduquer ou encore réconcilier les chefs coutumiers des communautés. Éduquer, former les chefs coutumiers, former les chefs coutumiers, parce que c'est eux qui sont les leaders dans les communautés. La population communautaire qui écoute plus les chefs de communauté, peut-être les pasteurs des églises et les prêtres, qui doivent aussi vraiment travailler pour réconcilier certaines communautés ici en Afrique. Vous verrez aussi que ces conflits sont liés aussi par l'absence, vraiment par l'impunité aussi. Il y a aussi l'impunité. On peut attendre que telle et telle autre communauté ne soit affrontée. Il y a eu autant de morts, mais après, l'État peut-être néglige. La justice est vraiment un peu lente. Alors par là, vous vous trouvez que cette tension, ce conflit, au jour le jour, augmente.
Merci beaucoup, Léon. Je m'excuse de vous arrêter, Léon. C'était vraiment un plaisir d'entendre tous vos points sur cette question, de très bonnes réflexions. Effectivement, avant de prendre Christian Politazi, qui est également en République démocratique du Congo, je vais citer Mitumba Sissi, qui a écrit sur le Facebook de VO Afrique, je le cite, « Le champ n'a pas le pied pour aller trouver les animaux, donc on connaît déjà là où il y a la vérité », dit-il. « Les agriculteurs n'auront jamais la paix tant que l'État ne prend pas une décision, surtout si c'est le bétail des autorités. » On prend Christian qui est en ligne en République démocratique du Congo. Christian, bonsoir. Alors, vous avez développé, vous allez nous développer des points sur les éléments qui justifient l'aggravation des conflits internes communautaires selon vous, et vous allez aussi développer des solutions éventuelles selon vous. On vous écoute.
Merci Nathalie de la parole accordée. Je crois que notre intervention aura beaucoup plus de similitudes avec celle de nos prédécesseurs, dans ce sens que parmi les éléments que ont cités, nous également nous allons les citer, les éléments qui en fait sont à la base de ces conflits intercommunautaires. Et donc nous pouvons citer dans ces lots, entre autres, il y a les conflits de leadership liés justement à la succession au trône d'un seul coutumier ou encore d'une autorité ou d'un administrateur du territoire. Vous savez, lorsqu'un seul coutumier décède, la succession en Afrique ou surtout en milieu rural pose énormément de problèmes. Et donc, lorsqu'il y a ce tiraillement, automatiquement, c'est pratiquement l'ensemble du village qui est mis à feu. Et cela fragilise, en effet, ou encore occasionne la multiplicité de ces genres de conflits interethniques. Au-delà de ça, il y a également l'influence politique. Donc, dans ce sens que trop souvent, à cause des intérêts électoraux, les politiques de la contrée et quand tout cité de semer ce que la danse populaire vient diviser pour mieux régner. Ils cherchent à diviser tel et tel autre village pour qu'aux élections, qu'ils soient les seuls maîtres ou les seuls leaders de cette contrée afin qu'ils soient élus. Et il y a encore un autre élément sur les conflits liés aux terres. Parce que la guerre entre les premiers occupants et les seconds occupants, ou encore les originaires et les non-originaires, pose vraiment encore problème. Parce que cela occasionne aussi beaucoup de morts et plusieurs autres dégâts. Et donc, parmi ces éléments, le dernier élément, si nous pouvons encore citer, je crois que c'est. C'est aussi la mauvaise ou encore la mauvaise application des lois ou encore la mauvaise interprétation des lois en la matière, par exemple en matière coutumière, par exemple en matière de succession. Lorsque la loi n'est pas bien appliquée, lorsque les régimes, trop souvent c'est les régimes en place qui essaient un tout petit peu de boutiquer les choses parce que cela s'est déroulé à l'époque, disons en 2017 avec le phénomène Kamounan Sapou, mais aussi en 2018 à Yumbi, donc ces conflits, à la base, ça a été les autorités politiques administratives, donc la mauvaise interprétation des lois, mais aussi leur mauvaise applicabilité. C'est les membres, Nathalie, pour remédier à cela. Je crois qu'il faudrait tout simplement renforcer l'autorité de l'État, comme on l'a dit mon prédécesseur. Mm-hmm. Je crois que cela pourrait permettre automatiquement la soumission de tous aux règles, parce que dans un État de droit, tous sont soumis aux règles et nul n'est au-dessus de la loi. Donc, lorsqu'on aura renforcé l'autorité de l'État, je crois que ce genre de choses pourront cesser et que les villageois pourront vivre en paix. Donc, tout ce que nous pouvons leur demander à ce stade actuel, de comprendre que nous n'étions avancés seuls et que l'Union fait la force. Et donc, voilà, il faut mettre beaucoup plus l'intérêt de la communauté en avant-plan et non l'intérêt privé égoïste pour faire avancer la paix et la quiétude dans l'ensemble de ces villages. Et voilà ce que nous pouvons dire à ce stade du débat, Nathalie Barre.
Un grand merci, Christian. On vous dit à très bientôt. On prend tout de suite Thierno Diallo, qui est en Guinée. À vous la parole, Thierno. Bonsoir. On vous écoute.
Oui, bonsoir, Nathalie. Et bonsoir à l'ensemble des auditeurs de Triple VOA Afrique. Très heureux de vous retrouver. Je pense que ce sujet d'aujourd'hui est vraiment pertinent parce que c'est très regrettable que des communautés, des gens qui ont vécu durant des siècles ensemble s'entretient. C'est quelque chose qui est vraiment regrettable. Mais ce qu'il faut signaler, c'est l'État, ce sont les administrateurs, ce sont de différents hommes politiques de ces pays qui ont participé à affaiblir les chefs coutumiers. Parce que je pense que c'est eux. Par le passé, qui verrait la situation. Et s'il y avait des conflits entre des communautés éleveurs, agriculteurs, c'est les chefs coutumiers et chefs religieux de ces villes ou de ces villages qui appelaient tout le monde de venir réunir autour de la table et parler. Il y avait même des griots qui venaient là et sentaient et rappelaient les rappels et le lien historique entre ces communautés. Ça a été géré. Mais aujourd'hui, l'administration publique est faible. Ils sont présents partout. Ils ont continué à affaiblir ces coutumiers. C'est là le problème. Alors qu'elles n'ont pas la force de faire face à ces affrontements qui continuent malgré les efforts fournis par certaines ONG dans les sensibilisations, mais ça continue dans différents pays d'Afrique. C'est quelque chose qui est vraiment regrettable. Il faut donner César ce qu'il a. Il faut que les chefs coutumiers s'impliquent. Il faut qu'on leur donne les moyens. Il faut qu'on les laisse faire leur boulot. Parce que bon, les sous-préfets, les chefs de canton, les chefs de village, les secrétaires et autres qui sont là, ce n'est pas des personnalités qui ont vraiment fait l'unanimité. Contrairement aux chefs coutumiers, les chefs coutumiers, ils sont là depuis des siècles. Et c'est par descendance qu'ils ont hérité leur pouvoir. Donc c'est à eux de gérer. Mais aujourd'hui, on les politise, on les affaiblit politiquement. Donc les affrontements, très malheureusement, ça continue.
Merci beaucoup, Thierno. Un grand merci. On a d'autres auditeurs qui attendent. Un grand merci, Thierno. On vous dit à bientôt. On a Espé Ledoux qui veut nous parler du Tchad. Espé Ledoux, comment allez-vous?
Oui, je me porte à merveille.
C'est un plaisir de vous entendre. À vous la parole, on vous écoute.
Ok, bon. Ce que j'aimerais vraiment souligner à propos de ce problème qui gangrène vraiment la société, vous savez que ce phénomène fait couler tant de sang innocent et sans ignorer la perte en vie humaine et les dégâts matériels qu'engendrent ces conflits. Et ce qu'il faut noter, il faudrait qu'il y ait l'impartialité des autorités dans la prise des solutions, du moment où l'on prône beaucoup plus la cohabitation pacifique. Tel que chez nous au Tchad maintenant, c'est l'heure où les habitants, les paysans font leurs travaux champêtres. Et c'est ce moment où les conflits vraiment s'accentuent également. Et vous êtes sans ignorer que ces éleveurs sont beaucoup plus armés. Mais la question de savoir d'où proviennent ces armes et à qui appartiennent vraiment ces bétails, les troupeaux de bétail. L'État est vraiment interpellé. Et je pense que la solution viendra de ces autorités. Franchement dit, ça fait très mal.
Merci beaucoup, Ledoux, SP Ledoux, pour votre témoignage donc sur le Tchad. On a Moulera Mavou qui est en République démocratique du Congo. Bonsoir, à vous la parole, on vous écoute.
Oui, bonsoir Madame Nathalie, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique. Comme je l'ai écrit sur votre page Facebook, Madame, ce conflit, les causes de conflits et pères communautaires sont beaucoup plus nombreuses, vous comprenez. Au niveau du village, il y a des terres qui déjà cherchent à en avoir beaucoup pour en produire un peu de mieux cette matière agricole pour la consommation interne et de vendre à rien. Quand vous utilisez votre terre et que votre terre ne produise, vous allez commencer à enfoncer pour aller chez les autres. Et ce qui alimente aussi beaucoup plus de conflits qui amènent les gens à se tenturer entre eux. Alors, au-delà de cela, il s'agit aussi le volet politique. Il y a des leaders qui poussent tout simplement pour avoir de la popularité, pour gagner du terrain sur le plan politique et etc. Ils manipulent les choses coutumières qui ne se sentent plus convenablement à faire leur travail comme convenu par la loi qui les donne l'autorité coutumière à bien gérer leur secteur pour construire. Alors, oui, mais bien, moi, je crois que c'est le dialogue permanent. On empêche l'amour entre les privateurs, les éleveurs et les gens de votre communauté pour en faire gagner un peu d'intérêt. Sinon, les gens vont commencer à se porter comme ça et il y a de temps en temps, nous aurons toujours des morts, des jours et lendemains, alors que c'est qui n'est pas bien. C'est pour cela que nous interpellons les autorités nationales pour investir et voire même les autorités continuent à s'investir beaucoup plus sur la question, enfin pour éviter que ces histoires de choses se répètent du jour au lendemain. Voilà pourquoi vous avez...
Un grand merci, Moulera Mavou, pour votre témoignage, votre réflexion. On prend tout de suite en ligne Pascal Kouamé, qui est en Côte d'Ivoire. Pascal, bonsoir, à vous la parole.
Bonsoir, madame. Bonsoir à toute la VOA.
On vous écoute.
Alors, moi, ce que j'ai remarqué de cette histoire, en fait, je remarque que là où il y a ce genre de conflit, dans les zones où il y a ce genre de conflit, c'est en général les zones qui sont où l'État est absent, quelque chose. L'État n'est pas vraiment ce qui devrait être. C'est sur papier, on dit l'État, mais l'État ne joue pas son rôle. Quand un monsieur qui prend tout son temps à faire son champ, espérant avoir une bonne récolte, et quand les entrepôts de bœufs viennent détruire tout son champ, le monsieur se trouve avec qui ? Un sous-préfet ou un préfet ? Alors, si tu vois qu'il n'y a aucune réponse concrète qui peut le rassurer, à un moment donné, les populations, ceux qui font les cultivateurs vont se prendre, vont vouloir se faire justice, se défendre. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler et puis rester les bras croisés, un peu de deux à venir détruire tous les champs. Donc, ce n'est pas possible. Maintenant, c'est l'État maintenant qui devrait réglementer l'élevage. Réglementer l'élevage et être présent auprès des populations. Les cadres, les députés qui sont élus, on ne les voit pratiquement pas. Ils ne parlent pas au temps des élections. Donc, les populations ne savent pas vers qui se tourner pour ce genre de situation, si ce n'est que de se défendre, de pouvoir défendre leurs intérêts. C'est tout ce qui cause tout cela. Donc, moi, je pense que les États gagneraient vraiment à être présents. Et aussi, les cadres gagneraient aussi à organiser certaines rencontres sectives, organiser des cérémonies pour sensibiliser la population sur la cohésion sociale, leur montrer les avantages de la cohésion sociale, les risques de se faire justice, tout ça. Si tout cela, si l'État est vraiment présent et que tout se passe dans les normes, quelqu'un qui a eu son sang détruit, qui s'en va se plaindre et qui obtient gain de cause, on dit voilà, désormais si c'est comme ça, voici ce qui se passe, voici quelle amende que l'éleveur doit payer, voici. La personne est satisfaite, il pense que les choses vont bien se passer. Mais l'État est quasi absent dans ces zones-là. C'est le seul grand problème qui est là.
Un grand merci, Pascal. C'était un plaisir de vous entendre. On prend tout de suite Jonathan Chiswaka, qui est en République démocratique du Congo. Bonsoir, Jonathan. À vous la parole, on vous écoute. Ah, on a perdu Jonathan. Donc, je vais en profiter pour citer quelques commentaires de nos auditeurs, notamment le commentaire, une partie du commentaire d'Alphonse Mbouaki, qui est également en RDC. Il dit souvent, ce sont des conflits fonciers, de limites des terres, des eaux, des vrais originaires des terres et des venants étrangers, de vol de bétail, d'expropriation des terres. Pour y mettre un terme, il faut installer des tribunaux coutumiers pour trancher ces contentieux et placer l'autorité de l'État partout et des administrations policières pour assurer la sécurité des gens et punir les auteurs des meurtres et tueries, dit-il. Il y a le commentaire de Vincent Seounou qui est vraiment très intéressant. Vincent qui est donc au Bénin. Alors il dit, je le cite sur le Facebook de VO Afrique, bien sûr ce conflit existe dans mon pays chaque année. Les éleveurs de bétail viennent avec leurs troupeaux et détruisent les champs de culture vivrière des agriculteurs. Tout ça crée un affrontement entre les deux parties. Et c'est là que c'est intéressant. Il dit, pour remédier à ce grave problème, le gouvernement de mon pays, le Bénin, a décidé de sédentariser les éleveurs en créant le Haut Commissariat des éleveurs. Nous avons un auditeur en ligne pour terminer. Qui avons-nous en ligne ? Ah, c'est Alphonse. Alphonse en RDC. Alphonse, bonsoir. On vous écoute.
Oui, madame. Les causes de ce conflit-là, moi, je pense que c'est une question d'identité, une question de liberté d'espace, des problèmes d'influence. La vie est comme le conflit entre le Paul et le Dogon, et à coup à dos. Il est seul, hein. On voulait impliquer dans ce conflit-là. Donc, je pense que ce sont des problèmes fonciers, des difficultés foncières. Pour les résoudre, à mon avis, je pense qu'il faut installer l'autorité de l'État dans cette partie-là et des administrations militaires et de sécurité. Parce que si, depuis à part, pour maintenir l'ordre dans ce côté-là, là où il y a des conflits, et puis. Encore, il faut mettre en place des tribunaux coutumiers. Donc, il y a des conflits. En fait, je vais essayer de compter des processus.
Alors, Alphonse, je m'excuse, mais on vous entend plutôt mal. On a un problème de ligne, donc je préfère qu'on s'arrête ici. Mais en tout cas, on a entendu l'essentiel de votre commentaire. Je vais citer notamment Salomon, qui est en République démocratique du Congo. Il dit la cause, c'est la limite administrative et le manque d'amour de ceux qui se disent propriétaires de sol haut. Et des fois, ces éleveurs nomades qui viennent envahir le pays d'autres sans autorisation, tel qu'en RDC. Le commentaire d'Asmaïlou, il dit la provocation et la mésentente entre les communautés, souvent les manipulations sont en jeu. On a également le commentaire de Jim Rangar qui est au Tchad. Il dit ces conflits ont comme cause la mauvaise gestion des autorités, la malgouvernance est responsable de ces tragédies. Pour y remédier, les autorités doivent s'impliquer honnêtement et revoir leur position de dirigeant. Et on a Salé Mahamat, top fan, qui dit « Les conflits intercommunautaires ne sont pas simplement localisés dans une seule province au Tchad. » Donc il parle du Tchad, mais c'est pratiquement sur l'ensemble du territoire. C'est un phénomène qui est quelque part initié ici à N'Djamena par des hommes politiques. Que pense-t-il ? Bon voilà, il y a d'autres commentaires. On vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires, pour votre participation. Un grand merci à Georges Léonard Sagnot, à la production et aux appels téléphoniques. C'était Nathalie Barge avec vous. On vous dit à très bientôt. Bonsoir et bon courage.